France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'évolution du Covid-19 en France est préoccupante. L'alerte a été faite hier soir par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, à moins d'une semaine de Noël. Le nombre de cas recensés en 24 heures a une nouvelle fois augmenté, avec plus de 18 000 contaminations hier. Le nombre moyen de nouveaux cas provoqués par une personne est de nouveau supérieur à 1. Prudence donc, disent les autorités, alors que le nombre de tests, il faut le souligner par ailleurs, augmente à l'approche des fêtes de fin d'année. Et le Covid-19 touche le sommet de l'État français. De nombreux responsables politiques s'isolent après le test positif du président Emmanuel Macron. Il a quitté hier l'Élysée pour travailler à distance à Versailles, au pavillon de chasse de la Lanterne. Le Premier ministre Jean Castex a lui été testé négatif, mais il a tout de même été placé à l'isolement. Même précaution sanitaire pour les chefs de gouvernement luxembourgeois, belges, portugais et espagnols, mais aussi pour le président du Conseil européen Charles Michel. Tous ont en fait rencontré Emmanuel Macron la semaine dernière lors du sommet européen à Bruxelles. L'agenda présidentiel est donc bouleversé pour les jours qui viennent. Le voyage du président au Liban mardi et mercredi a été annulé. Le dernier conseil des ministres de l'année qui est prévu lundi se déroulera en visioconférence. Les États-Unis vont bientôt avoir accès à un deuxième vaccin anti-Covid-19. Le comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments recommande en urgence l'utilisation du sérum produit par Moderna. Sauf énorme surprise, les premières vaccinations pourraient donc se faire dès ce week-end, tandis que plus de 3200 personnes sont mortes ces dernières 24 heures aux États-Unis à cause du Covid-19. Enfin, notez que 344 élèves ont été libérés par leurs ravisseurs au Nigeria hier, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des mineurs, des collégiens et lycéens qui avaient été enlevés vendredi soir par des hommes armés, surnommés des bandits dans cette région du Nigeria. Hier, les djihadistes de Boko Haram avaient diffusé une vidéo des lycéens enlevés. Ils sont donc 344 à avoir été libérés hier.
À quelques jours d'intervalle à la télévision, d'un côté Angela Merkel, de l'autre le Premier ministre de la province canadienne du Manitoba, saisis tous les deux par l'émotion à propos de la crise du coronavirus.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
On accuse souvent les politiques de diriger par l'émotion, mais parfois ce sont les émotions qui les saisissent. Dans la conversation mondiale du temps du débat, la chercheuse Laurence Kaufmann et l'homme politique belge Paul Magnette se demandent si nous sommes gouvernés par l'émotion.
Le temps du débat, ce vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente « Aux sources du funk ». Un vinyle dans un livret de 28 pages pour plonger dans l'Amérique brûlante des années 60 et 70, qui voit la soul music devenir la funk. Avec une playlist originale et un récit sur mesure, « Aux sources du funk » est un vinyle book adapté de l'émission « Jukebox » d'Amaury Chardot, le dimanche à 15h sur France Culture et sur l'appli Radio France. « Aux sources du funk », un vinyle book France Culture, actuellement dans les packs.
Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du Monde vivant, chronique de Bruno David, qui s'intéresse ce matin à un arbre royal, le chêne.
Juin 1264, parc du château de Vincennes, alors en pleine campagne. Louis IX est assis au pied d'un arbre, il fait venir à lui ses sujets désireux de solliciter un arbitrage. Ainsi est née l'image du bon roi Saint-Louis rendant la justice sous un chêne, une image que tout écolier a contemplée. Certains pensent que cette image de Saint-Louis sous son chêne est une fake news du XIIIe siècle, d'autres la pensent véridique. Elle l'est, si l'on en croit le témoignage de Jean de Joinville, qui écrit « Maintes fois il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes et s'appuyait à un chêne. Et ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres. » Le roi écoutait les griefs des requérants, mais ne rendait pas justice lui-même. Il ne se substituait pas au système judiciaire qu'il avait mis en place en 1256. Un système très moderne qui inaugurait entre autres la présomption d'innocence, l'enquête contradictoire, l'audition de plusieurs témoins et l'égalité devant l'accès à la justice. Aujourd'hui, cette scène emblématique nous intéresse parce qu'on voudrait bien savoir à quel arbre le roi s'adossait. D'accord, il s'agit d'un chêne. Mais lequel ? L'appellation « chêne » se rapporte au genre Quercus, qui appartient à la famille des Fagacées, celle du hêtre et du châtaignier. Le genre Quercus abrite entre 200 et 600 espèces. Cette incertitude tient à l'existence de nombreux hybrides qui rendent les délimitations taxonomiques délicates. Difficile alors de savoir sous quelle espèce de chêne Saint-Louis s'installait, mais il s'agissait obligatoirement d'un des chênes d'Île-de-France, chêne Cécile, chêne pubescent ou chêne pédonculé. Aventurons-nous à supposer qu'il s'agissait du chêne pédonculé, Quercus robur, appelé aussi chêne blanc, qui est courant dans la région. C'est un grand arbre de 25 à 35 mètres de haut, dont la circonférence peut atteindre 5 mètres. Il affectionne les climats océaniques et continentaux humides de l'Europe. Avec le chêne Cécile, il est aujourd'hui l'une des deux espèces de chênes européens d'intérêt économique, notamment pour la dureté et la pérennité de son bois. Il symbolise l'endurance, la virilité, la solidité, la force. Les chênes sont souvent de vrais hôtels et pas que pour les écureuils ou le gui. Ils hébergent une foule d'autres espèces et sont donc de petits écosystèmes à eux seuls, y compris après leur mort. Si bien que les botanistes les qualifient de points chauds de biodiversité. Les chênes vivent vieux, 500 ans en moyenne. Le plus ancien chêne de France réside à Allouville-Belfosse en Normandie. Il aurait été planté en 911. Le chêne symbolise aussi la longévité. Les noces de chêne se fêtent à 80 ans de mariage, autant dire que fort peu de centenaires doivent les fêter. Et puis, comme le chantait Brassens, les chênes sont nos amis. « J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain de chêne, mon alter ego. » Une amitié poussée jusqu'à en faire le bois préféré pour nos cercueils.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Aujourd'hui, c'est un jeune auteur de bande dessinée que je reçois, Baptiste Desrailles. Le Pas de la Manu, le titre de sa première BD, se déroule au début des années 60 dans la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la MAS, qui a été fermée en 2002. Et à travers quelques personnages de cette manufacture, Baptiste Desrailles esquisse le portrait d'un grand disparu, le monde ouvrier ou la classe ouvrière française. Sujet passionnant et traitement graphique audacieux, coédité par Actes Sud et L'An 2, Le Pas de la Manu est la bonne surprise de cette fin d'année en bande dessinée.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Baptiste Desrailles.
Bonjour Toufik.
Vous avez 30 ans, vous êtes né à Saint-Étienne, c'est bon de le rappeler, en 1990. Je sais que vous avez étudié à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, qui elle-même est installée sur le site de la MAS.
Oui, c'est vrai.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui, ce site de la MAS transformé en école des Beaux-Arts?
Alors c'est tout restructuré, c'est tout neuf. On a encore les bâtiments, on va dire de 1886, et qui sont très beaux. Et on a une restructuration totale du site qui doit faire une sorte d'usine créative où maintenant sont mis les beaux-arts, la Biennale du design, des ateliers, des choses comme ça.
Et ça fait quoi d'étudier les beaux-arts dans un site qui a été longtemps l'usine pour l'industrie de guerre.
C'est pas évident au début. C'est pas évident de se dire que c'est qui était fait des armes et que maintenant on essaye de faire autre chose. Mais je me souviens que la première année où je suis arrivé, qui était la première année d'ouverture de l'école, il y avait encore certains bâtiments qui étaient sous contrôle militaire et donc il y avait des militaires. Qui gardait des portes. Et nous, on passait avec notre carton à dessin et ça nous semblait tellement absurde, ce moment où il n'y avait aucun échange entre nous.
Et pourtant, à travers votre histoire et à travers les personnages de cette manufacture, Baptiste Desrailles, vous rendez hommage à la MAS en racontant l'histoire de quelques ouvriers.
Moi, c'était les histoires de la MAS sont vraiment ancrées, on va dire, dans le paysage stéphanois. C'est des histoires que j'ai entendues depuis que je suis tout petit, notamment par mes grands-parents qui avaient des amis qui travaillaient à la MAS, qui étaient des manuchards. Donc,
c'est comme ça qu'on les appelait. Ouais.
C'est comme ça qu'on les appelait. Et tous ces manuchards racontaient ce qui se passait à l'usine et racontaient ce qu'ils construisaient. mais en ne parlait rarement d'armes, finalement. Toutes ces histoires ancrées vraiment dans Saint-Étienne, qui sont vraiment devenues des expressions, ben, le pas de la Manu, qui est une expression très connue à Saint-Étienne, qui veut dire, on va dire, travailler sans se presser, adopter le pas de la Manu, ça a été faire les choses tranquillement. Et ça, ça a plusieurs origines et significations, que je raconte un peu dans le livre aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a raconté, c'était que les ouvriers arrivent en courant à l'usine, et dès qu'ils passent les grilles, ils se mettent à marcher tranquillement. Parce que ils sont payés, contrairement à, par exemple, la mine, qui fonctionne, la mine fonctionne avec les 3-8, donc ils sont constamment sous pression. Et puis, il y a cette arrivée du taylorisme et de la parcellisation du travail qui commençait vraiment à arriver, qui existait déjà aux États-Unis, mais qui arrivait. Mais la Manu était préservée de ça. Je pense qu'il y avait ça véritablement à la masse. Mais c'était surtout la vue des autres entreprises qui se moquaient un peu des Manuchards. Ça, c'est une raison, et il y en a d'autres. C'est, les Manuchards disent que c'est surtout un acte de résistance pendant la guerre, de 40, la manufacture d'armes était un enjeu stratégique et était sous occupation allemande. Et le fait de marcher lentement, de travailler très lentement était un effort pour ralentir l'effort de guerre allemand.
Aujourd'hui, la manufacture d'armes de Saint-Étienne appartient à l'histoire de la ville. Est-ce qu'on l'appelle la masse ou est-ce qu'on continue à l'appeler affectueusement la Manu?
J'ai souvent entendu la masse, mais c'est vrai que la Manu est devenue une sorte de sigle très sympathique pour désigner tout l'ensemble de bâtiments. Moi, je l'ai toujours appelé la Manu, mes grands-parents l'ont toujours appelé la Manu et ceux qui y travaillent l'appellent plutôt la masse.
Alors vous avez décidé de parler de cette histoire de la manufacture dans les années 60. Et s'il fallait remonter dans le temps, Baptiste Desrailles, vous savez pourquoi on a choisi Saint-Étienne et ce site-là pour construire cette grande usine d'armes?
Saint-Étienne était déjà connu pour ses armes dans les années 1600 et quelques. Et il y avait plein d'artisans qui fabriquaient des fusils, qui gravaient des fusils, et progressivement, petit à petit, ils se sont rassemblés et ils se sont organisés entre eux pour créer une des premières manufactures. Ce serait François Ier qui aurait décidé de confier cette tâche de manufacture royale d'armes à Saint-Étienne. Et progressivement, d'aiguille en aiguille et de gravure en gravure, ils se sont organisés jusqu'à une démocratisation totale de la ville dans son industrie, notamment dans les années 1816. Et là, c'est le premier grand boom industriel de la ville qui se développe complètement. La ville est complètement réorganisée autour de son industrie, du ruban.
Nous, bien sûr, on a fait une enquête pour connaître un peu mieux l'histoire de la masse et on est tombé sur cette archive d'un universitaire de Saint-Étienne que vous connaissez peut-être, un maître de conférence habilité à l'université de Saint-Étienne, Jean-François Brun.
Alors, pourquoi une manufacture nouvelle génération à Saint-Étienne? Plusieurs raisons. D'abord, Saint-Étienne, le bassin stéphanois, produit le tiers de l'acier français, notamment les aciers spéciaux. Des compétences professionnelles évidentes. Il y a à peu près 5000 armuriers, 80 entreprises, et on ne voudrait pas non plus que, compte tenu des salaires meilleurs offerts dans d'autres secteurs de l'industrie, ces armuriers partent vers ces industries. Des innovations réussies, le revolver Le Faucheux, le canon en acier du fusil de tirailleurs sénégalais en 1862.
Alors vous êtes intéressé plutôt dans cette bande dessinée, Baptiste Desrailles, dans les années 60. Qu'est-ce qu'on fabriquait dans les années 60? Quel genre d'armes on fabriquait dans cette manufacture?
Ah, on fabriquait pas mal de trucs. Je crois qu'on fabriquait surtout le MAS 56, qui est le fusil de l'armée française à l'époque. C'est lui qui est parti, qui était sur tous les fronts, je crois. Et on fabriquait aussi de l'équipement pour les chars AMX, qui sont les chars d'assaut utilisés à l'époque.
Donc, c'est-à-dire que pour vous, c'était aussi un exercice de dessiner ces armes?
Oui, c'est de dessiner les armes. Et c'est très difficile parce que c'est une mécanique qui est assez précise, on va dire. Et donc, si jamais on dessine mal ces armes, elles sont toutes molles et on n'y croit pas.
Les ouvriers de la Manu, comme vous le dites, de cette manufacture d'armes de Saint-Étienne, profitaient aussi du fait qu'ils étaient sur place pour se fabriquer des petites bricoles pour la maison, pour des amis. Ça s'appelle perruquer, c'est ça ?
Oui, le travail en perruque. Ouais.
Et ben, ce travail en perruque, c'est ça qui fait l'histoire de votre bande dessinée. On suit quelques ouvriers qui, justement, fabriquent autre chose pour eux que les armes.
Moi, je voulais, pour revenir un peu en arrière, je voulais parler de l'usine et chercher un moyen d'entrer dans l'usine, notamment dans cette usine-là que j'avais, dans laquelle j'avais marché, même si elle avait été restructurée. Et j'ai trouvé que cette action de la perruque était vraiment quelque chose de très beau pour entrer dans le sujet de l'usine, parce que c'est vraiment l'irruption d'un acte presque artistique des ouvriers, d'une sorte d'envie totale de l'ouvrier qui essaye justement de trouver un sens à ce qu'il fait. Trouver un sens à ce qu'il fait, c'est pas forcément construire toujours la même chose, mais pouvoir suivre un objet sur toute sa fabrication et un objet utilitaire dans lequel il a besoin, ou un objet décoratif pour faire plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose qui, je trouve, assez beau comme rapport à l'idée de ces ouvriers.
Et parmi ces ouvriers de votre bande dessinée de fiction, il y a Jean. Lui, il a un rêve encore plus grand que ceux qui bricolent des petites pièces pour réparer leurs ustensiles de cuisine.
Ouais, lui, il veut construire carrément un bateau pour
donc un voyager. Moteur.
Un moteur de bateau. Mmh. Et c'est un peu dans toutes les perruques que j'ai vues ou que j'ai regardées, c'est vraiment le moteur ou les mécaniques comme ça sont vraiment le graal du perruqueur. Je sais qu'il y en a qui ont construit des motos, et je sais qu'il y en a qui ont construit un avion, et le fait de construire quelque chose qui est quelque chose de brillant mécaniquement, comme l'est un moteur, avec énormément de pièces qui doivent s'imbriquer, qui doivent être ajustées au millimètre, c'est l'acte ultime du perruqueur. Et en plus, un bateau qui permet vraiment de le symbole d'une sorte d'évasion totale du personnage, donc c'était pour ça. Et qui vient d'une vraie histoire, puisque du coup, c'est quelque chose que j'ai pris un collègue à mon père qui travaille aussi dans la mécanique, qui est enseignant et qui a construit son bateau dans son jardin, à partir de rien.
Toute l'histoire de votre bande dessinée, Baptiste Desrails, c'est une fois qu'ils ont réussi à construire des pièces, et là, un moteur de bateau, c'est quand même une pièce qu'on ne peut pas dissimuler sous sa veste. Toute l'histoire et toute l'intrigue de la bande dessinée, c'est comment faire sortir cette pièce.
J'essayais de mettre une sorte d'affaires un peu presque policières dans mon récit. Ce suspense, je savais qu'il y avait quelque chose à jouer dans « Va-t-il réussir à sortir son moteur ou pas ?»
Le pas de la Manu, on va parler maintenant du traitement graphique et puis surtout pourquoi vous avez choisi les années 60 pour revenir sur l'histoire de cette manufacture. Mais parmi les célébrités de la chanson française, ça c'est une question que je vous pose de bon matin, Baptiste Desrails, parmi les célébrités de la chanson française, il y a un qui a travaillé dans cette manufacture des armes.
Oui, c'est Bernard Lavilliers.
Et on l'écoute.
Le réveil culturel, Toufik Hakem sur France Culture.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces. Le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
voudrais travailler, encore forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Bernard Lavillier, qui a lui aussi travaillé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne dans les Laminoirs, il a fait les 3-8. Et dans votre bande dessinée, Baptiste Desrailles, vous nous montrez quelques personnages à partir d'enquêtes que vous avez menées, quelques ouvriers, quelques contremaîtres. Au centre, quelqu'un qui s'appelle Jean, qui va être un peu le personnage principal de votre bande dessinée. Je rappelle le titre, Le Pas de la Manu. Pourquoi vous avez choisi les années 60, plus précisément parce qu'il est question aussi d'espionnage industriel à cette époque-là? On est en pleine guerre froide encore, et parce qu'il y a aussi cet épisode douloureux de la guerre d'Algérie, c'est les deux dernières années de la guerre d'Algérie.
Ouais, c'est la fin de la guerre d'Algérie. J'aimais bien l'idée de l'après-guerre où il y avait quelque chose de heureux en fait dans les usines, et notamment à la masse, il y avait un côté euphorique un peu à l'après-guerre. Ils disaient qu'ils travaillaient vraiment dur, mais qu'ils étaient heureux. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et en fait, la bande dessinée, je voulais la faire que ça dure une semaine et qu'en réalité, il se passe pratiquement 30 ans. Et je pense que ça commence dans les années 50 et progressivement, je finis dans les années 70 avec l'arrivée de nouvelles machines, l'arrivée de la commande numérique qui a changé énormément de choses pour les travailleurs, on l'imagine.
Donc on est en pleine mutation dans cette cette bande dessinée, ouais.
Ils disaient pas qu'avant c'était mieux, mais que qu'ils avaient plus de temps, en fait. Tout ça, c'est une notion de temps, et la notion de temps, je pense, est importante aussi à la fois dans la perruque et à la fois dans comment j'ai raconté cette histoire, parce que j'ai mis presque 5 ans à la faire, c'est un temps énorme.
Parce que vous avez décidé pour cette bande dessinée, Baptiste Desrailles, de travailler avec la technique du monotype sur zinc, c'est-à-dire une méthode de gravure. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer?
Oui, alors le monotype, c'est une technique d'estampe qui consiste à utiliser une encre, on va dire une encre très grasse, et de dessiner sur une plaque de zinc. C'est très agréable, c'est comme dessiner sur du verre, on peut essuyer facilement avec les doigts, on a quelque chose de très malléable, de très doux, et après, une fois que notre dessin nous plaît, on peut le passer sous presse, et par transfert, on a un tirage une estampe qui sort, et donc c'est un peu Noël chaque fois qu'on ouvre, qu'on soulève parce qu'on se demande si le dessin est raté ou pas. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai déjà fait quelques histoires, et je trouvais cette technique parfaite pour parler des usines avec déjà l'action d'une presse qui est un outil mécanique, l'encre qui rappelle l'huile, le métal, quelque chose que je trouvais très très cohérent dans cette histoire.
Oui, mais sauf que cette histoire se déroule sur 230 pages.
Oui, et il y a plus de 2000 dessins.
Mais ça donne quelque chose de très beau et de très brumeux en même temps.
À l'inverse du dessin où on dessine à partir d'une feuille blanche, moi en général j'encre toute la plaque et je pars du noir. Donc les dessins sont par nature très sombres et moi je joue sur les valeurs de gris. C'est marrant parce que c'est comme si je faisais rentrer de la lumière dans mon dessin. Et c'est un peu comme si on était dans une usine noire et qu'on ouvrait les fenêtres. Et donc il y a le rapport aux ouvertures, aux fenêtres est très important aussi. Aussi parce que c'est très long de faire les fenêtres avec cette technique, puisqu'il faut les dessiner en les évidant, ce qui est long.
Et pour les visages, pour les personnages, que ce soit les ouvriers, les contremaîtres ou bien les épouses de ces ouvriers qui venaient le jour de paye pour être sûrs que leur mari n'allait pas boire toute l'intégralité de leur salaire, vous êtes parti à partir de photos d'époque ou sont des personnages complètement fictifs, y compris dans leur apparence physique? Parce que le dessin, avec toute cette technique, on se rapproche quand même d'un dessin très réaliste.
C'est très étonnant ça, parce que moi je me base beaucoup sur la visualisation de films. J'ai vu énormément de films qui est ma source pratiquement ma source principale pour la bande dessinée. Et du coup avec des films d'époque, j'ai beaucoup regardé La Belle Équipe de Duvivier avec Gabin justement, mais aussi les Chaplin. C'est vraiment ma porte d'entrée, je pense que c'est Chaplin des temps modernes que j'ai vraiment regardé. Et après, il y a quelque chose dans le dessin des personnages, c'est que je pense que le personnage principal je devais trouver des sortes de signes pour qu'on le reconnaisse. Donc je lui ai mis une casquette. Et de plus en plus, il se met à ressembler un peu à, on va dire, à me ressembler à moi, puisque je me prenais en photo sur des poses pour essayer de voir comment la lumière réagissait. Donc il progressivement, il me ressemble de plus en plus. Et pour les autres personnages, c'est presque, et c'est un peu curieux de dire ça, mais c'est presque un hasard. Je regardais un film et puis j'ai fait un arrêt sur image à un moment où j'avais besoin d'un personnage. Un des personnages principaux, c'est un personnage qui vient d'un film de Chris Marker. Ce personnage s'est imposé, c'était lui d'un coup. Et je l'ai découvert comme ça, et après j'ai juste répété ce visage toute la bande dessinée, et ce personnage était là. Donc c'est très, très étonnant de voir apparaître des personnages et de les faire vivre comme ça. C'est une technique que j'avais jamais faite et que...
Pour revenir à l'histoire de la masse, il y avait 11 000 ouvriers en 1940. Quand l'usine ferme définitivement, ils étaient moins de 3 000, c'était en 2002. Qu'est-ce qui reste de cette période, de cette époque dans le Saint-Étienne d'aujourd'hui, puisque vous vivez toujours à Saint-Étienne?
Ouais.
Je suppose que cette bande dessinée doit faire plaisir aux anciens Manuchats. Certains sont encore en vie.
Oui, il y en a plein qui sont en vie. Ben, il y en a que j'ai rencontré. Il y en a plein qui sont en vie et il y en a plein qui se mettent... Je me souviens quand j'ai rencontré les gens de la CGT à Saint-Étienne, ils étaient... Et quand je leur ai parlé du pas de la Manu, ils ont été un peu agacés. Oh, on va pas s'en sortir, cette histoire du pas de la Manu. Et ils ont peur que ce qui reste soit cette idée qu'ils étaient un peu feignants, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Il y a une rencontre qui va...
Oui, parce qu'en même temps, on peut pas leur rendre hommage. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on rend hommage à des ouvriers qui ont passé leur vie à construire des armes, à fabriquer des armes pour les guerres?
C'est tout le problème du point de vue que j'ai dans cette BD. C'est-à-dire, ça questionne beaucoup. Et l'idée, c'était de pas non plus charger les ouvriers. Puisqu'en fait, la Manu, c'est une école. On rentrait à 15 ans à la Manu et on faisait toute notre scolarité... à la Manu et toute notre carrière à la Manu, ce qui est pratiquement, ce qui n'existe plus maintenant, ou très rarement. Du coup, il fallait trouver une manière de ne pas charger ces personnages et de les culpabiliser. Et si jamais on analyse, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils revendiquent, c'est construire des choses, c'est fabriquer des outils, fabriquer des pièces. Là, ils le défendent, mais dès qu'on aborde le sujet des armes, il reste vague. Oui, ben oui, on faisait ça. On aurait préféré faire des vélos. On aurait préféré faire
des frigos.
Mais voilà, on a fait des armes. Peut-être qu'il y a quelque chose de les ouvriers les plus qualifiés font des armes. Peut-être que c'est comme ça et c'est sans doute très triste.
Et vous résumez bien ce sentiment ambivalent dans votre bande dessinée, votre première bande dessinée, Baptiste Desrails, Le pas de la Manu. Saint-Étienne, où se fabriquent les armes. C'est coédité par L'An 2 et Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir participé au Réveil culturel.
Merci à vous de m'avoir invité.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Ludovic Auger. Passez une bonne matinée, on se retrouve lundi à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
C'est un auteur aussi rare que précieux, avec seulement 17 nouvelles publiées en 30 ans. Ted Chiang est pourtant devenu l'un des piliers de la science-fiction contemporaine. Ses univers, à mi-chemin entre science, philosophie et métaphysique, empruntent autant à Borges qu'à Asimov. Il sera vendredi notre invité spécial pour parler de son dernier recueil, Expiration.
La méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
La salle des machines, ce sont des autrices et des auteurs qui viennent partager leur expérience d'écriture.
Sur France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Des romancières, des romanciers, des dessinateurs ou dessinatrices de bandes dessinées qui nous ouvrent leur monde. mettez un livre dans votre moteur.
Dans la salle des machines, des histoires de rois et de princesses avec Cyril Pedrosa et Roxane Moreil pour leur roman graphique médiéval L'Âge d'or et l'écrivain Maël Renoir pour l'historiographe du royaume. La salle des machines, ce dimanche à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une situation préoccupante. Le directeur général de la Santé a donné les derniers chiffres de contamination au Covid-19 en France hier soir. Et ces chiffres sont en hausse. Le virus n'est pas une méchante grippe. On apprend d'ailleurs ce matin qu'il fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique. Nous y revenons dans un instant. Zoom ensuite sur la mise en concurrence de certaines lignes intercités dans le pays. Excepté la SNCF, aucune entreprise n'est intéressée. L'État suspend donc l'appel d'offres. Dans ce journal encore, la Nouvelle-Calédonie et les tensions toujours autour d'une usine de nickel. Et puis le lancement de la vaccination contre le coronavirus en Arabie Saoudite. Aération des pièces, port du masque en intérieur, même avec ses proches, pas plus de 6 adultes à table. À une semaine du réveillon de Noël, Jérôme Salomon a particulièrement insisté hier soir sur le respect des mesures de prévention. Le directeur général de la Santé tenait son point presse hebdomadaire. Inquiet, a-t-il dit.
L'évolution de l'épidémie est préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés. 18 254 nouveaux cas ce jour. Une augmentation de l'activité de dépistage, avec une progression importante des tests antigéniques. Plus d'1 430 000 tests ont été pratiqués en une semaine, soit un taux d'autodépistage de plus de 2 000 tests pour 100 000 habitants. Le maintien à un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2808 en réanimation et 1362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Enfin, le nombre total de décès est désormais en France de 59 619.
Voilà la préoccupation de Jérôme Salomon et son explication chiffrée hier soir. Ma autre étude maintenant qui met en perspective les données Covid et celles de la grippe. Des chercheurs de l'INSERM et du CHU de Dijon affirment que le Covid-19 est responsable de 3 fois plus de décès à l'hôpital que la grippe saisonnière, Philippe Bourré.
L'étude compare les périodes les plus aiguës des deux épidémies, l'hiver 2018-2019 pour la grippe et le printemps dernier pour le Covid-19. Et le constat est clair, le taux de mortalité est 3 fois plus élevé pour les patients touchés par le coronavirus, près de 17%, quand la grippe saisonnière a été fatale à moins de 6% des malades. Autre constat, 2 fois plus de personnes ont été hospitalisées pour Covid-19. On note également plus d'admissions en soins intensifs avec un séjour presque 2 fois plus long. Pour les chercheurs, la comparaison entre les deux épidémies est d'autant plus frappante que cette saison grippale avait été la pire des 5 dernières années en nombre de décès. Alors cette étude a ses limites, notamment parce que le dépistage grippal varie d'un hôpital à l'autre et qu'il existe une immunité contre la grippe dans la population. Ce qui fait dire à l'INSERM qu'en l'absence de traitement contre le Covid-19, les mesures barrières restent essentielles et que l'accès à des vaccins efficaces est une nécessité.
Vaccins qui n'arriveront en France que pour les derniers jours de l'année, au plus tôt pour les personnes âgées. Emmanuel Macron est isolé dans une résidence d'État à Versailles pour se soigner du Covid-19. Le président a été testé positif hier matin. Il travaillera donc à distance pendant une semaine depuis la Lanterne, un pavillon de chasse, entouré d'une équipe réduite à son maximum. Brigitte Macron, son épouse, cas contact, reste confinée au palais de l'Élysée. Elle a été testée négative, tout comme Jean Castex, contraint lui aussi à l'isolement à Matignon. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoquait une possible contamination d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière lors d'un sommet européen organisé à Bruxelles. C'est un échec. Échec dans l'appel d'offres lancé par l'État français pour s'occuper des trains intercités Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Après 2 ans d'attente pour trouver un nouvel opérateur à partir de 2022, un seul candidat s'est proposé et il s'agit de la SNCF elle-même. L'État a donc préféré décaler la procédure jusqu'à avoir une visibilité claire sur l'issue de la crise sanitaire, dit l'exécutif. À l'heure actuelle, en effet, cette reprise des intercités ne convainc aucune autre entreprise, Thomas Larabi.
Les principaux opérateurs privés intéressés, et notamment l'allemand Transdev, n'ont pas souhaité donner suite. Ils évoquent des garanties insuffisantes de l'État ou encore de trop nombreux travaux à venir sur les voies. De son côté, l'exécutif agite l'excuse du Covid, mais pour le délégué Sudrail, Fabien Villedieu, cet échec est avant tout une preuve que la privatisation du secteur ferroviaire est une mauvaise idée.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès qu'une entreprise privée serait confrontée à une difficulté, ben, y a plus personne. Alors même que justement, on nous avait vendu l'inverse. Le privé, c'était génial, c'était vachement plus efficace que ce qu'on était capable de faire, et on se rend compte que pas du tout. Heureusement qu'on a une entreprise publique comme la SNCF qui ne plie pas les gaules aux premières difficultés.
La SNCF regrette que son projet n'ait pas été étudié. Elle garde pour le moment l'exploitation des deux lignes, une situation qui pourrait durer selon l'économiste Marc Ivaldi.
Dans la situation actuelle, il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui rentrent sur le marché en France. Même si ce sont des entreprises efficaces dans le sens où elles auraient des coûts moins élevés que la SNCF, pour des trains comme ça, compte tenu des prix des billets, et compte tenu des subventions, eh bien, c'est pas rentable de rentrer.
L'échec est, quoi qu'il en soit, très symbolique pour le gouvernement qui voulait faire de ces deux lignes un exemple, car avant 2023, toutes les régions doivent formuler des appels d'offres pour ouvrir cette fois les TER à la concurrence.
Qui achètera en Nouvelle-Calédonie l'usine de nickel du sud de l'archipel? L'actuel propriétaire, le groupe brésilien Vale, souhaite vendre cette usine à un consortium international, ce que refusent catégoriquement les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Depuis des semaines, des tensions sont grandissantes sur place. Deux députés et un sénateur calédonien demandent à l'État français de nationaliser temporairement cette usine pour apaiser la situation. Explication ce matin pour France Culture de Stéphane Robert.
Les indépendantistes kanaks ont décrété une trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais ils sont toujours bien décidés à empêcher la vente de l'usine de nickel du Sud au consortium international piloté par le groupe suisse Trafigura. Et donc, si rien n'a bougé d'ici début janvier, les barrages resurgiront sur les routes. Et sur les barrages, des hommes en armes, comme la semaine dernière. Les kanaks ne veulent pas de cette vente, car ils estiment que ce serait abandonner l'usine et son gisement aux appétits financiers de groupes internationaux, alors qu'ils considèrent le nickel comme une ressource stratégique dans la perspective d'une accession à l'indépendance. Le gouvernement français a beau faire valoir qu'il n'y a plus qu'un seul repreneur, il n'en démorde pas, raison pour laquelle les parlementaires calédoniens demandent à la France de nationaliser l'usine de façon temporaire afin d'apaiser les tensions. Car le conflit s'est envenimé politiquement, les loyalistes soutenant la vente au consortium international. Et ce qui alimente les tensions, c'est bien sûr la perspective d'un troisième référendum sur l'indépendance qui doit se tenir d'ici octobre 2022. Les indépendantistes font du déblocage de la situation autour de l'usine de nickel un préalable à une reprise des discussions politiques. La situation ressemble beaucoup à ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans, en 97 et 98. Les Kanaks avaient alors fait de la cession du gisement de nickel du Koyanbo, situé au nord, un préalable à la reprise des discussions politiques et à la signature de l'accord de Nouméa qui prolongeait les accords de Matignon.
Stéphane Robert pour France Culture. Au lendemain du verdict dans le procès des attentats de janvier 2015, c'est un autre procès terroriste qui s'est achevé hier, celui de l'attentat du Thalys en août 2015 qui avait fait deux blessés. L'auteur des tirs, Ayoub El-Kazani, a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité. Nous évoquions il y a quelques minutes le début des vaccinations en France. Eh bien, cette nuit, la FDA américaine, l'agence du médicament aux États-Unis, a approuvé l'utilisation en urgence du vaccin anti-Covid développé par le laboratoire Moderna. C'est la deuxième autorisation aux États-Unis après celle pour Pfizer. Vaccination qui a par ailleurs débuté en Arabie Saoudite cette semaine. L'Arabie Saoudite devient le premier pays arabe à déployer le vaccin Pfizer-BioNTech. Deux cargaisons ont été reçues dans le pays avant-hier, Aurélien Colli.
Les images ont fait la une des journaux, des télés et des réseaux sociaux saoudiens. Les premières vaccinations dans le royaume, 150 000 doses du vaccin Pfizer arrivées mercredi et déjà administrées gratuitement aux volontaires, en priorité les personnes les plus vulnérables et le personnel médical exposé. Avec cette campagne, l'Arabie Saoudite se place en tête des pays qui ont commencé à vacciner dans la région. Et pourtant, Riyad n'est pas confronté à l'urgence de l'Europe ou des États-Unis. 6 000 morts pour 35 millions d'habitants, avec moins de 150 nouveaux cas par par jour désormais, l'épidémie est largement sous contrôle. Dans un dossier spécial consacré, je cite, à la dure bataille gagnée contre le Covid, un journal saoudien explique ce succès par l'expérience du virus MERS il y a quelques années. Même famille que le Covid, mais 35% de mortalité et 90% des cas en Arabie Saoudite, qui s'est depuis préparé aux épidémies en équipant notamment ses hôpitaux. Entre les lignes de ce dossier, on devine aussi les raisons beaucoup plus politiques qui motivent cette course à la vaccination de l'Arabie, sa place revendiquée de puissance régionale et surtout sa rivalité avec son grand voisin, l'Iran, où l'épidémie est hors de contrôle depuis l'année dernière, avec des milliers de morts et des perspectives de vaccins beaucoup plus lointaines.
Et notez que d'autres pays du Golfe, comme le Qatar, Oman ou le Koweït, n'attendent pas leur premier vaccin anti-Covid-19 avant le début de l'année prochaine. Après quelques pluies matinales sur la Bretagne et sur les Cévennes, les éclaircies auront gagné tout le pays à la mi-journée ce vendredi. Comptez entre 4 et 13 degrés du nord au sud aujourd'hui. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture, Jacques. Alors, il n'y a pas de remontée mécanique pour ces vacances de Noël à cause de la crise sanitaire. Les ventes de raquettes à neige explosent. Et c'est l'occasion pour vous, Jacques, de découvrir la montagne d'une autre manière.
Oui, randonnée nordique, trail hivernal, balade en raquette. Au fur et à mesure que l'atmosphère hivernale sera altérée par le changement climatique, on peut s'attendre à ce que l'attractivité esthétique, symbolique et récréative des paysages enneigés prenne de l'importance, estime Philippe Bourdeau dans le le Délé Frima, dernier numéro de la revue L'Alpe consacré à la neige et à la glace, la revue L'Alpe donc. Le professeur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de l'Université de Grenoble juge que le modèle de développement mis en œuvre dans les Alpes depuis plus de 60 ans doit évoluer. Il évoque les enjeux du maintien de l'emploi en montagne, mais aussi la question des ressources et de l'environnement. Pour s'affranchir des aléas climatiques, la production artificielle de neige s'est développée depuis les années 1990, allant jusqu'à son transfert, son transport en camion ou en hélicoptère. Or, elle est coûteuse en eau et en énergie et laisse présager des conflits sur les usages, car la surface à enneiger ne cesse d'augmenter. 15% des domaines skiables français en 2007, 30% en 2018, 70 à 80% visés pour 2030. Un fonctionnement dont les coûts croissants contribuent à la montée en gamme des sports d'hiver, éloignant toujours plus l'utopie du ski pour tous qui a légitimé l'aménagement des stations. Seulement 8% des Français partent au ski au moins une fois tous les deux ans. Un effet de niche accentué par le fait que seuls 2 à 3% des skieurs consomment près de 80% des journées skieurs. Du coup, les stations se tournent de plus en plus vers la riche clientèle internationale. Philippe Bourdeau parle d'un verrou socio-technique, une situation dans laquelle une technologie est devenue si normative qu'il semble impossible d'en changer, et il plaide pour le patrimoine et les traditions. La neige en montagne, c'est aussi un mode de vie, et pour les sociétés agro-pastorales, d'abord une nécessité, comme le rappelle Alexis Metzger dans cette livraison poudreuse de la revue L'Alpe. La couche de neige, avec son pouvoir isolant, protège les cultures des effets du gel. Le seigle peut ainsi rester 12 mois en terre dans les hautes vallées jusqu'à vers 2000 mètres d'altitude. Le géographe à l'université de Lausanne évoque les très nombreux dictons qui en attestent. Neige en janvier, blé au grenier, année de neige, année de fruits. Pour les paysans, c'est une pause bienvenue, le repli sur la demeure, les liens familiaux et villageois qui se resserrent autour du poêle lors des veillées, l'artisanat du bois notamment, la transmission des savoirs, le temps qui s'écoule en paix. Mon pays, c'est l'hiver, résume l'institutrice Aimée Bigalet en voyant ces gens prendre le soleil en milieu de journée. Avec ses sabots multifonctions, notamment pourvus d'une membrane qui assure la portance sur la neige, mais aussi de ventouses qui collent aux parois rocheuses, le chamois est l'animal emblématique des Alpes et de la montagne européenne. gracieux et aérien, son anatomie est détaillée dans le dernier numéro de la revue Salamandre, ainsi que son histoire et son caractère farouche. Ses cuisses puissantes, avec des articulations formant des angles fermés à l'arrière et ouverts à l'avant, lui confèrent une formidable capacité de détente, comparable à un ressort, capable de bondir sans élan jusqu'à 2 mètres de hauteur ou à 5 mètres au-dessus du vide. Il peut atteindre une vitesse de 50 km/h sur un sol accidenté. Champion de la varappe, il s'est évolué sur des pentes à 80 degrés de verticalité, même sur des roches instables ou des schistes feuilletés, toujours grâce à ses fameux sabots. Il est issu d'une espèce de gazelle asiatique disparue il y a longtemps. Décimé par la chasse, il a fait retour et l'on en dénombre aujourd'hui environ 500 000 dans les Alpes et les massifs avoisinants. Éric Lapier, auteur de documentaires, a suivi la saison des amours de Rupi Capra, la chèvre des rochers. Il nous livre un prodigieux portfolio accompagné d'un journal de bord. Après 2 heures d'attente à 2200 mètres, un chamois s'exhibe avec arrogance sur les promontoires de la falaise. Un autre mâle solitaire s'affiche, c'est le début de l'affrontement. Une poursuite vertigineuse, aucun obstacle. Rochers, neige, torrents les arrêtent dans cette descente. Ils sont déjà 300 mètres plus bas. Une chute de 15 mètres et un atterrissage dans la poudreuse clôt la scène. Ah, j'en suis encore tout essoufflé, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, reprenez votre souffle.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, des enjeux internationaux, un pays au cœur de la question migratoire sur le continent américain, le Nicaragua.
Oui, la journée internationale des migrants ce vendredi 18 décembre est l'occasion de parler des 100 000 Nicaraguayens qui en 2 ans ont quitté leur pays, 100 000 sur 6 millions d'habitants, pas seulement parce que le Nicaragua est le deuxième pays le plus pauvre des Amériques après Haïti, mais aussi pour ne plus avoir à subir la dictature du président Daniel Ortega, un ancien révolutionnaire dont les méthodes répressives ressemblent à celles de la dictature de Somoza, qu'il a pourtant contribué à renverser en 1979. Bonjour Hélène Roux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'unité mixte de recherche, développement et société à l'Université Paris 1. Vous êtes également journaliste indépendante. Alors quand est-ce qu'elle a commencé cette vague de départ qui a porté 100 000 Nicaraguayens et Nicaraguayennes loin de leur côte natale?
Alors ça a commencé en fait en 2018, c'est-à-dire cette vague de personnes qui sont parties plutôt en exil à la suite donc du soulèvement qui a eu lieu en avril de 2018. Le plus fort, ça a été en juin, juillet, au moment de ce que le gouvernement a appelé l'opération nettoyage, c'est-à-dire une répression extrêmement violente de ce soulèvement qui avait commencé en avril 2018.
Soulèvement qui avait commencé contre la réforme des retraites notamment et la réforme de la sécurité sociale.
Oui, alors c'était une réaction en fait au fait que des personnes âgées qui manifestaient donc pour leur pension avaient été molestées par la police. Donc il y a eu un espèce d'engrenage.
Hélène Roux, la plupart sont allées au Costa Rica, juste au sud du Nicaragua. Le Costa Rica les a accueillis comment? Quel statut leur a-t-il accordé? Déjà, les a-t-il tous laissés s'installer?
Alors, en fait, le Costa Rica, oui, les a accueillis parce que, politiquement, ça lui convenait de le faire. Les relations entre le Costa Rica et le Nicaragua ont toujours été compliquées. D'autre part, il y a une migration ancienne, économique, mais qui n'a rien à voir avec cette vague d'exilés. Donc, elle les a accueillis relativement bien au début. Cela dit, il faut savoir qu'il y a un statut. Donc, il y a à peu près 80 000 personnes qui ont demandé un statut de réfugié, mais que ce statut est très long à obtenir, ça peut durer des années, et c'est actuellement un gros problème pour les gens qui sont en exil.
Alors, vous dites que cette migration est ancienne. En effet, dès le régime dictatorial des Somoza Perefis dans les années 70, ensuite les pro-somosistes qui fuyaient la victoire des sandinistes, beaucoup de Nicaraguayens sont partis dans les 40 dernières années, 50 dernières années, le tremblement de terre de Managua en 72, le cyclone Mitch en 98. Les raisons ne sont pas que politiques et économiques. Qui sont ceux qui vont, les Nicaraguayens, qui partent aux États-Unis?
Alors, aux États-Unis, en fait, les gens qui partent sont les gens qui, en général, ont les moyens de le faire, sont peut-être un peu plus urbains, ont pu réunir un peu plus de fonds, et puis surtout qui ont de la famille déjà aux États-Unis.
Parce qu'il y a une communauté. Nicaraguayenne.
Nicaraguayenne assez importante, oui, bien sûr.
Alors,
les années 80.
On parlait mercredi dans les enjeux internationaux de l'opposition biélorusse sur un tout autre continent et de l'opposante en exil Svetlana Tikhanovskaya, porte-parole à l'étranger de l'opposition au régime. Est-ce que les Nicaraguayens ont, hors de leur pays, des opposants qui représentent l'opposition à Daniel Ortega?
Non, moi je pense qu'on ne peut pas parler comme ça. En fait, les gens sont partis... de façon assez précipitée, et précisément l'opposition nicaraguayenne est actuellement divisée. Si elle a été unie dans les premiers temps pour faire face donc à la répression, elle est maintenant on entend de nouveau la petite musique électorale parce que les prochaines élections sont prévues en 2021. Et puis, il y a aussi une pression de la communauté internationale pour trouver l'homme ou la femme providentielle, ce qui, au Nicaragua, pour l'instant, n'est pas du tout, en fait, la problématique. La problématique, c'est surtout le rétablissement des droits les plus élémentaires, comme même le droit de sortir de chez soi. Et alors, il y a bien quelques figures qui se profilent, mais en gros, il y en a beaucoup.
Ouais. Voilà. Est-ce que beaucoup sont en prison parce que des accords avaient été élaborés entre Daniel Ortega et l'opposition il y a quelques années, avec l'aide d'ONG d'ailleurs, pour libérer certains opposants politiques?
Oui, alors il y a eu effectivement en juin 2019, il y a eu une sortie massive de prison. C'était à peu près 700 personnes qui sont sorties et qui ont en fait eu d'abord un espèce de régime d'arrêt domiciliaire qui pour certaines personnes d'ailleurs dure encore. On a vu encore hier des images d'une figure assez connue d'une ONG empêchée physiquement de sortir de chez lui et violemment. Et les ex-prisonniers politiques sont soumis à un harcèlement constant qui les empêche de sortir en fait de chez eux.
Comme les journalistes d'ailleurs, puisque de nombreux journalistes ont quitté le pays, ils étaient une centaine en 2018 parce qu'ils étaient directement menacés ou que leurs médias étaient interdits de transmettre. Certains sont rentrés, mais voilà un des droits élémentaires au Nicaragua qui n'est pas respecté, celui de s'informer. Dans un autre genre de départ, Hélène Roux, il faut noter celui des ONG, les ONG internationales à qui une nouvelle législation demande de s'inscrire comme agent étranger auprès du ministère de l'Intérieur et qui donc, pour certaines, ne veulent pas le faire et partent. Quelles ONG ça concerne? Qui ont des activités strictement alimentaires ou politiques?
Il y a les deux, en fait. Disons que les ONG au Nicaragua sont extrêmement importantes. Il y en a vraiment beaucoup et de toutes sortes. Alors, il est évident que... Comme la période électorale s'approche, l'idée c'est de pouvoir désamorcer un certain nombre de personnes nicaraguayennes qui pourraient avoir des velléités de s'impliquer en politique. Le problème c'est que les ONG étrangères étaient déjà soumises à un contrôle très fort, contrôle fiscaux notamment, enfin bon, bref. Mais là, il s'agit surtout des Nicaraguayens, c'est-à-dire des contreparties de ces ONG, des Nicaraguayens et Nicaraguayennes qui doivent s'inscrire comme agents étrangers dans leur propre pays. C'est ça le souci disons le renforcement de ces mesures qui existaient déjà, hein, des mesures de contrôle qui existaient déjà. Et puis effectivement il y a un certain nombre d'ONG qui sont parties contraintes et forcées, dont le Centre nicaraguayen des droits de l'homme, dont il ne reste plus que la présidente d'honneur qui a 82 ans, mais tout le reste de l'équipe a dû partir au Costa Rica, ou la majorité d'entre eux.
Alors qu'est-ce qui se dessine pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, puisque Daniel Ortega s'accrochait au pouvoir, mais il avait déclaré vouloir, bon, dans un premier temps, aller jusqu'au bout de son mandat actuel en 2021, et après, est-ce qu'il a d'ores et déjà dit qu'avec son épouse et vice-présidente Rosaria Murillo, il serait candidat?
Ben moi, je pense qu'il y a dans sa tête à lui et à elle aucun doute là-dessus. Normalement, en fait, depuis 2016, donc date des élections précédentes, il y avait eu un accord avec l'Organisation des États américains, avec l'OEA, pour faire des réformes électorales. Il n'y a pas l'ombre, disons, d'une première... Le début du commencement d'une réforme électorale. Donc là, il semble qu'il va rien se passer. Et en fait, au lieu d'adopter justement, de travailler à une réforme électorale qui ait l'air de quelque chose, il y a eu donc un enchaînement de trois lois liberticides, celle sur les agents étrangers, celle sur la cybersécurité et celle sur l'établissement de la perpétuité pour les crimes dits de haine.
Merci Hélène Roux. On n'a pas parlé de la façon dont le Nicaragua avait géré la crise sanitaire de façon catastrophique, avec une politique alignée sur celle de Donald Trump et de Jair Bolsonaro au Brésil, avec un déni total et une crise sanitaire qui a fortement compliqué les allées et venues autour de la frontière, notamment entre le Nicaragua et le Costa Rica, avec des milliers de migrants coincés aux frontières dans des conditions sanitaires déplorables. Merci beaucoup Hélène Roux d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Oui, France Culture, c'est une radio, mais c'est aussi un grand jeu de société qui s'appelle Prenez l'antenne.
160 ans plus tard, on a enfin mis un nom sur cette célébrité anonyme.
Arnaud Laporte.
Constance Kenio, identifiée comme le modèle de l'origine du monde de Courbet, l'héroïne d'Histoire d'eau.
À qui les atlantistes s'opposent-ils traditionnellement?
Émilie Aubry.
Aux pacifistes? Aux continentalistes?
Vous êtes curieux et joueur? Alors oui, le nouveau grand jeu de société de France Culture, Prenez l'antenne, est pour vous. En vente en magasin et sur Internet, toutes les informations sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Eh bien, lui non plus, c'est pas vraiment quand il l'a croisé, mais il a demandé à ces personnes à risque de s'isoler, notamment son premier ministre. C'est Emmanuel Macron. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Et vous avez des nouvelles, des informations précises sur son état de santé du président.
Mais alors là, d'une grande précision, la maladie d'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec la lèpre de Baudouin IV de Jérusalem, la scoliose de Richard III, évidemment aucun lien avec la syphilis de François Ier. Aucun lien non plus avec l'entérite tuberculeuse de Louis XIII. Et pas seulement parce que le Covid n'est ni la lèpre ni la syphilis. La principale différence entre la maladie d'Emmanuel Macron et la maladie des rois de France, c'est le corps du roi. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'un président a la rate qui déraille ou la prostate qui tousse, il est question des deux corps du roi. Alors voilà, ça serait génial si l'on pouvait à l'avenir ne plus jamais évoquer les deux corps du roi au présent pour le Covid d'Emmanuel Macron comme pour la varicelle d'Hanouna, si bien sûr Hanouna est élu, vous savez. Car en fait, cette notion que l'on doit à l'historien allemand Ernest Kantorowicz n'a à peu près rien à voir avec la représentation que l'on peut se faire aujourd'hui de la maladie des présidents. Et c'est même un peu leur problème, je m'explique. Kantorowicz, c'est l'un des historiens les plus singuliers, les plus fascinants du XXe siècle. Juif, Hitler lui proposa de devenir arien d'honneur. Il refusa, réfugié aux États-Unis. Lui, l'anticommuniste virulent, refusa de participer au maccartisme. Les deux corps du roi racontent la lutte entre deux pouvoirs, le pouvoir temporel et royal contre le pouvoir de l'Église. Et cette métaphore naît de l'expression « le roi est mort, vive le roi », manière d'affirmer que si le corps physique d'un roi peut mourir, le corps spirituel de la royauté, lui, ne peut pas périr, le pouvoir se transmettant du défunt à son successeur. Mais ce n'est là qu'une facette de cette expression, car au-delà, cette vision, cette métaphore signifie que les politistes médiévaux se représentaient la société comme un organe que le roi récapitulait. Saint-Louis ne gouvernait pas la France, il était la France. Et pour ce faire, le roi, les rois, devaient lutter contre un autre pouvoir, celui de l'Église. Au travers des deux corps du roi, Kantorowicz raconte l'émancipation du pouvoir royal par rapport au pouvoir religieux, comment se distingue le corps de Saint-Louis de l'autre corps, celui du Christ. Mais précisément aujourd'hui, la comparaison ne fait plus sens. Aucun président ne récapitule son pays. Le symbole a fait long feu. Emmanuel Macron n'est pas le descendant de Louis XVI, ni même celui de François Mitterrand. Il n'arbore pas de masque de fer. Tout au plus, un masque FFP2.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Aujourd'hui, nous allons évoquer les vacances d'hiver, le temps libre quand il n'est pas libre. Nous serons en compagnie de l'historien Sylvain Vénère et de l'anthropologue Saskia Cousin. Nous sommes le vendredi 18 décembre 2020, il est 7h, excellent réveil à tous.